Dieu donnera la victoire, chers pèlerins. Voilà 3 jours que nous marchons et nous voici tout près du but. Ce que nous avons médité, le règne du Christ, nous l'avons vécu. La victoire du Christ, nous l'avons expérimentée. Ami pèlerin, ce que tu as vécu durant ces 3 jours, c'est une réelle expérience de chrétienté. Voilà maintenant ce que je te propose. Continue cette expérience de chrétienté, continue ton pèlerinage une fois rentré à la maison. Si vous tous, pèlerins, faisiez de même, alors quel feu nous mettrions sur la terre ? Le Christ a régné durant ce pèlerinage. Le Christ a régné sur nos intelligences. Pendant 3 jours, le Christ a d'abord régné sur nos intelligences grâce aux méditations, aux prédications. Qu'il faisait bon d'être éclairé, de mettre des mots sur nos intuitions, de recevoir des réponses à nos questions. La vérité a éclairé nos intelligences, les a guéries, les a purifiées, les a nourris, les a dilatés, les a élevés. Chers pèlerins, il faut que ce règne continue demain. Continuons à nous former. Cherchons des lieux de formation pour que la vérité du Christ continue à régner sur nos intelligences. Le Christ a régné sur nos libertés. Pendant 3 jours, le Christ a régné sur nos libertés. Nous avons répondu à l'appel du Christ, à l'appel de Chartres. Nous avons fait l'expérience que le fardeau du Christ est doux et léger, et nous avions d'autant plus envie de le suivre. Nous nous sommes sentis libres et respectés quand le Christ nous a appelés à nous confesser. C'est en toute liberté que nous avons veillé dimanche soir, au pied du Saint-Sacrement, où il nous appelait. Son appel a été plus fort que l'appel du sommeil et la tentation de céder à la douleur de nos pieds. Oui, nous avons expérimenté que le règne du Christ, c'est la vraie liberté de l'homme. Alors, ô Jésus, parle, commande et règne. Cette liberté, ne la perdons pas. De retour à la maison, en laissant le démon à nouveau régner dans nos cœurs par le péché, lui qui nous fait croire que nous serions libres alors qu'il nous emprisonne dans les chaînes de l'addiction et de la haine. Et n'oublions jamais la force de la confession régulière. Le Christ a régné par la charité. Le Christ a encore régné pendant ces 3 jours sur nos cœurs par la charité. Et qui plus est, une charité sociale. Autour du Christ et à son appel, nous avons formé une véritable chrétienté, une chrétienté en marche, une chrétienté en bivouac. Il n'y avait qu'à s'asseoir au bord de la route et regarder, écouter passer la colonne des pèlerins, le long chapelet des chapitres s'égrenant sur la plaine de la Beauce. Quelle variété, quelle unité, français, allemand, anglais, américain, et j'en passe. On marchait ensemble, on chantait ensemble, on priait ensemble. La voilà la véritable Europe. Le voilà le seul mondialisme possible. L'unité dans le Christ, la chrétienté, qui accueille les différences, les cultures diverses, dans une commune foi en Jésus, dans un même amour de Jésus, au service du même Jésus. Le Christ a régné par la croix. Voici enfin 3 jours que le Christ règne sur nous, par sa croix, en s'immolant chaque jour sur l'autel, et cela chacun de ces 3 jours, et autant de fois qu'il y a de prêtres dans cette colonne. Voici 3 jours que nous portons la croix du Christ. Nos pieds sont douloureux, nos épaules sciées, nos visages grillés, nos vêtements trempés. Mais qu'importe, la joie est au rendez-vous. Nous chantons gaiement sous la pluie, nous marchons comme des gueux, mais si bravement, c'est que nous marchons sous l'étendard du Christ roi, car nous savons que nous avons été créés par amour et sauvés par l'amour. La croix du Christ est chemin de gloire. Il faut qu'il règne maintenant sur la société. Alors oui, notre choix est arrêté. Nous qui avons goûté comme il fait bon, lorsque le Christ règne pendant 3 jours, nous quittons ce pèlerinage en voulant qu'il règne toujours et partout. Certes, le Christ a déjà vaincu. Il règne déjà de droit. Et pourtant, c'est à nous de le faire régner de fait, ici et maintenant. C'est un paradoxe. Le Christ règne, et pourtant, il faut qu'il règne. Le Christ a vaincu, et il nous faut encore nous battre. Nous avons déjà vu comment réaliser notre conversion personnelle de témoin du Christ, bâtir des îlots de chrétienté, œuvrer pour que s'imprègne la douce loi de Jésus-Christ dans la société. Mais il reste que c'est quasiment un miracle que nous recherchons. Or, les miracles, cela existe. Sauf que ce n'est pas nous qui les faisons, mais Dieu. Aussi, il manque à notre parcours un point essentiel. Nous avons vu comment œuvrer au règne du Christ, mais tout cela ne sera rien sans l'action de Dieu. Car c'est Dieu qui change les cœurs et les sociétés. Demandez un miracle. Les miracles ne remplacent pas l'action humaine. Ora et labora. Mais celui qui pense relever une société par des moyens purement humains se trompe lourdement. Il y a déjà eu des interventions divines dans l'histoire des hommes pour les sauver, à commencer par l'incarnation elle-même. On peut penser aussi à l'intervention de la Vierge Marie à Lépante, à la force du chapelet, pour protéger l'Europe de l'invasion ottomane ou à l'action providentielle de Jeanne d'Arc. Alors, quels sont les moyens surnaturels à notre disposition? 1. L'offrande de la messe. Le renouvellement du sacrifice eucharistique est une explosion d'amour dans le monde, disait le cardinal Journet. Non, rien ne remplacera jamais une messe pour le salut du monde. Chaque messe réactualise, à un moment du temps et en un lieu, le combat que le Christ a déjà gagné sur la croix et dont il applique la victoire aujourd'hui. Victoire contre le mal, le péché, la haine de Dieu. À chaque messe, dit le cardinal Journet, la croix de Jésus entre dans notre espace et dans notre temps. Oh, ce n'est pas la croix de Jésus qui bouge. La croix demeure, elle ne bouge pas, pendant que le monde tourne. Elle est le pivot, et chaque messe nous ramène sous la croix de Jésus, ramène notre époque, notre temps, sous la croix de Jésus, et sauve ce temps, cette époque, et les âmes qui viennent, sous la croix de Jésus. Chers pèlerins, faites offrir des messes pour votre pays, particulièrement dans des périodes délicates ou importantes. 2. La réparation. Souvenons-nous aussi de ce que l'ange de Fatima a dit aux voyants en 1916 « Offrez à Dieu un sacrifice en réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et en supplication pour la conversion des pécheurs. Vous attirerez ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Par-dessus tout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. C'est tout le thème de la réparation. Alors que nous célébrons les 350 ans des apparitions à Paray-le-Monial, il faut que nous ayons à cœur de nous offrir en réparation pour les péchés et les offenses qui montent de la terre et de la France vers le ciel. 3. La dévotion au Sacré-Cœur. Le 17 juin 1689, le Sacré-Cœur apparaît à Sainte Marguerite-Marie et lui dit « Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur, parlant de Louis XIV, qu'il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable. Il veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et gravé dans ses armes pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. Ses ennemis, c'est sans doute le jansénisme, mais c'est aussi le roi lui-même. Il se fait appeler le roi soleil avec cette devise « Nul ne lui est semblable ». On assiste aux prémices de l'idolâtrie de l'État. Face à l'orgueil de cette conception, Jésus, doux et humble de cœur, se présente à notre nation. Cependant, Louis XIV ne réalisa pas cette consécration. Amis pèlerins, alors que l'on célèbre les 350 ans des apparitions à Paray-le-Monial, le pèlerinage s'est consacré publiquement au Sacré-Cœur hier après la messe dominicale. Une telle consécration n'est pas un acte magique. Elle doit être accompagnée d'un mouvement de conversion. Se consacrer au Sacré-Cœur, c'est vouloir que l'amour du Christ règne sur nos œuvres et sur nos activités. On peut ainsi, et je vous y encourage fortement, consacrer sa famille au Sacré-Cœur en réalisant l'intronisation de l'image du cœur sacré de Jésus dans le foyer en présence d'un prêtre, mais aussi consacrer une école, une association, une paroisse, une commune même. Plus il y aura de lieux qui seront dévoués au Sacré-Cœur, plus se répandra la civilisation de l'amour, la cité de la charité. 4. La dévotion au cœur immaculé de Marie. Face à la crise mortelle, dit le cardinal Sarah, que traverse notre civilisation, les seuls moyens humains ne pourront jamais, à eux seuls, triompher du mal et obtenir la paix. Une intervention divine directe est nécessaire et a été annoncée par la Sainte Vierge elle-même à Fatima en 1917 en affirmation que cette intervention serait obtenue par un moyen particulier. La dévotion à son cœur immaculé, en particulier par la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois. De la pratique de cette dévotion, unie à la consécration au cœur immaculé de Marie, dépendent pour le monde la paix ou la guerre. Cela signifie que Dieu veut que ce soit cette dévotion et non une autre. Selon sœur Lucie, voyante de Fatima, en mars 1939. En quoi consistent ces premiers samedis du mois? Notre-Dame a demandé que pendant 5 premiers samedis du mois de suite, 1. On communie en esprit de réparation des offenses qui lui sont faites. 2. On fasse 15 minutes de méditation sur un mystère du rosaire. 3. On récite un chapelet. 4. On se confesse dans les 8 jours avant ou après. Pour être nombreux à mettre en œuvre ces premiers samedis du mois et agir en esprit d'unité et d'église, une alliance appelée Salve Corda a été formée. Elle rassemble des fidèles de mouvements catholiques et fonctionne sur le principe de multiples petits groupes locaux et autonomes appelés Cité des premiers samedis qui mettent en œuvre chaque mois cette demande de Fatima. Notre-Dame de Chrétienté a décidé de rejoindre cette action et de créer dans toutes ces régions des cités des premiers samedis. Pour lancer une cité des premiers samedis près de chez soi, écrire à premier-samedi@nd-chrétienté.com ou aller sur le site www.salve-corda.org. Témoigner courageusement de sa foi. Voilà une dernière œuvre pour édifier le règne du Christ et elle est surnaturelle, car elle est l'action de l'Esprit-Saint en nous. Témoigner publiquement de sa foi. Oui, chers pèlerins, nous devons témoigner, c'est-à-dire faire en sorte que nos paroles, nos actes, notre attitude, nos choix reflètent et manifestent la vérité profonde de notre être, à savoir que nous sommes des enfants de Dieu, des soldats du Christ, des citoyens des cieux, des citoyens des cieux. Posons-nous la question. Nos collègues de travail, nos camarades d'école, nos voisins, savent-ils que nous sommes chrétiens ? Est-ce que le respect humain, la crainte des moqueries, ne m'a pas conduit à mettre la lumière sous le boisseau, à cacher la vérité sublime qui habite mon cœur ? Petit exemple tout simple. Au restaurant, au self ou à la cantine, ai-je le courage de dire mon bénédicité, sans ostentation triomphante qui pourrait être contre-productive, mais avec simplicité et naturel. L'enjeu est immense. Par notre baptême, nous avons été configurés au Christ. Nous portons sa marque imprimée dans notre âme. Nous participons donc à sa royauté et le Christ veut étendre son règne à travers nous. Si nous refusons cette mission, nous nous rendons coupables de haute trahison. Et vous connaissez la peine réservée aux déserteurs en temps de guerre, car oui, nous sommes en guerre. Ils attendent, ces nouveaux barbares, la vérité qui les rendra libres, disait Charlier. Il n'est pas besoin de monter sur une caisse pour prêcher dans la rue. Ils ont soif, ces nouveaux barbares. Ils vous repéreront vite et vous interrogeront. N'ayons pas peur, même s'ils semblent sceptiques, moqueurs, voire agressifs. Dans le fond, ils attendent notre témoignage. Et de grâce, n'ayons pas la timidité de parler de valeur, prêchons le bien. Ne nous contentons pas de la morale, prêchons Jésus-Christ et Jésus crucifié, mort et ressuscité. Ne nous contentons pas de prêcher une vague spiritualité syncrétique, témoignons de la rencontre avec le Christ. Conclusion. nous conclurons cette méditation sur les moyens surnaturels par une citation de Peggy qui illustre si bien comment on doit allier à la fois la prière et l'action dans l'action catholique. De tous les mauvais usages que l'on peut faire de la prière et des sacrements, aucun n'est aussi odieux que cet abus de paresse qui consiste à ne pas travailler et à ne pas agir, et ensuite, et pendant, et avant, à faire intervenir la prière pour combler le manque. Demander la victoire et ne pas avoir envie de se battre, je trouve que c'est mal élevé. Les croisés entre tous autres Saint-Louis, les croisés entre tous autres Saint-Louis, qui faisaient une guerre sainte, qui se battaient littéralement pour le corps de Dieu, pour le temporel de Dieu, puisqu'ils se battaient pour le recouvrement du tombeau de Jésus-Christ, ne s'y fiaient pourtant pas. Ils ne priaient pas comme des oies qui attendent la pâtée. Ils priaient mieux que nous, et ensuite, si je puis dire, en exécution de leur prière, et presque déjà en couronnement de leur prière, ils se battaient eux-mêmes tant qu'ils pouvaient, de tout leur corps, et eux-mêmes de tout leur temporel. Et pourtant, ces gens-là priaient mieux que nous. Mais quand ils avaient prié, ils bouclaient leur ceinturon pour le couronnement même de leur prière.